cœur, du fond de notre être. Louons-le, Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous surprend, le Seigneur, vous ne trouvez pas? Il faut le laisser faire. Ce n'est pas nous qui commandons à l'Esprit, c'est nous qui devons obéir au Saint-Esprit. C'est là le secret de la puissance et de l'efficacité dans le travail. Quand le Seigneur fait quelque chose, c'est le moment d'obéir. Il y en a qui arrivent toujours en retard. Ils sont prêts à obéir quand le Saint-Esprit n'est plus là. Tiens, je voudrais bien obéir, mais c'est trop tard. C'est toujours au bon moment qu'il faut obéir, n'est-ce pas vrai? Au bon moment. Quand le Maître appelle, obéissez. Obéissez. Nous allons rester dans cet esprit de prière, d'adoration, et j'aimerais vous donner quelques instructions qui sont, je trouve, extrêmement urgente, surtout dans notre époque actuelle. C'est un sujet que vous connaissez bien, mais nous allons essayer de voir quel est le remède à un mal, à une épidémie qui ravage des nations actuellement, et malheureusement aussi beaucoup de chrétiens. Je veux parler de la dépression. Et j'aimerais vous donner quelques pensées sur comment vaincre et éviter la dépression. Comment vaincre et éviter la dépression? Dans les mois ou les années qui viennent, la dépression va augmenter encore. Je ne suis pas le seul à le dire, les psychologues, les psychiatres commencent à s'affoler. C'est une véritable épidémie. La dépression commence à atteindre une quantité de gens, et malheureusement aussi des chrétiens. Mais je crois que la parole de Dieu nous donne l'armement nécessaire pour pouvoir résister dans le mauvais jour et d'être libre et vainqueur. Le croyez-vous? Alors, comment vaincre cette dépression et comment l'éviter? Nous allons lire un premier passage, si vous le voulez, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, et à partir du verset 18. Les versets 18 et 19 nous montrent que Jésus est venu aussi spécialement pour cela. Il avait un message pour les dépressifs. À ce moment-là, bien sûr, on ne les appelait pas les dépressifs, on les appelait les cœurs brisés. Un cœur brisé, c'est quelqu'un qui est dépressif. Mais Dieu soit béni, la parole de Dieu nous donne le remède. Luc 4, versets 18 et 19, voici ce que Jésus dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Un cœur brisé. Un cœur dépressif, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Quel beau ministère, n'est-ce pas vrai? Et combien ce ministère correspond encore aux besoins de nos jours, aux besoins de nos jours. Alléluia, mais Dieu soit béni. Si le mal va en grandissant, nous avons un sauveur qui grandit aussi chaque jour. Alléluia, plus nous le connaissons, plus il grandit à nos yeux. Que son nom soit béni. Et un autre passage, un tout simple, dans l'évangile de Jean au chapitre 16, qu'il est bon de se le rappeler. Si on se le rappelle, alors la dépression va prendre une autre image. Jean 16, 33. Peut-être que vous le connaissez par cœur, ce verset. Jean 16, 33. Le verset 32, déjà, nous pouvons lire. Donc, Jésus était sur le point de partir. « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés de chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses. Écoutez bien, ceci est important. Il le dit à ses disciples, comme il le dit à chacun d'entre nous ce soir. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Et le dépressif manque justement de paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais... prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur voulait comme en somme devancer les moments de difficulté que les apôtres et les disciples allaient avoir. Il voulait leur dire que tout ne va pas être facile. Vous aurez des tribulations. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que dans notre vie chrétienne, tout va aller comme sur des roulettes. Nous nous sommes fait des illusions. Et quand la difficulté est venue, alors la dépression a commencé à se manifester. Et on se dit, ah, j'ai cru que c'était pas si compliqué que cela. Et alors nous commençons à nous faire du souci parce que nous nous sommes fait des idées. Mais Jésus a ôté cela en leur disant, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous en aurez, j'en aurai. Donc il nous faut être armés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Il y aura des tribulations, mais il y aura aussi toujours avec vous le Sauveur et le Maître pour panser vos blessures, vous pour vous garder et pour vous bénir en tout temps et de toute manière. Le croyez-vous ? Alléluia. Alors j'ai noté d'abord quelles sont les causes de la dépression. Vous savez qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Je vais vous donner tout simplement sept causes. Vous pourrez vous-même en trouver d'autres. Mais on peut déjà découvrir sept causes de la dépression. Une des premières causes, et cela, ceux qui s'occupent de gens dépressifs le disent, la première des causes est le désappointement. Le désappointement. Quand une chose n'a pas été comme vous l'aviez pensé, alors qu'est-ce qu'il se passe? On commence à être dépressif. Oh, j'ai cru que ça allait se faire comme ça. J'ai cru que ça allait être différemment. J'ai été déçu de celui-ci, j'ai été déçu de celui-là. Il y a eu un désappointement dans votre vie. Et alors, à partir de ce moment-là, l'état dépressif a commencé. On n'est pas dépressif quand tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on commence à être dépressif parce que, à un moment donné, quelque chose nous a froissé ou quelque chose nous a déçu. On est désappointé. Je vous donne maintenant les causes, nous verrons plus tard les remèdes. Une deuxième cause de dépression... nous en avons parlé ces derniers temps, mais je le redis maintenant, c'est l'esprit d'infériorité. L'esprit d'infériorité, c'est terrible, comme il peut produire une profonde dépression dans la vie de beaucoup de personnes. Et il y a très souvent trois raisons pour lesquelles les gens sont dépressifs. Vous savez pas pourquoi, c'est des raisons un peu bizarres, si vous voulez, mais c'est des raisons quand même suffisantes. Quelqu'un est à un esprit d'infériorité parce qu'il se trouve moins beau que l'autre.
moins beau que l'autre, sur son apparence. Et vous savez, beaucoup de personnes, et de jeunes et de moins jeunes à cause de cela, parce qu'ils se trouvent moins beaux qu'un autre, alors on commence à se faire du souci. Regarde l'autre comme il est joli. Regarde l'autre comme elle est belle. Moi, oulala. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que même les personnes qui ont une belle apparence ne se trouvent pas belles. Même les personnes, on a demandé même à des acteurs et à des actrices qui ont un beau physique, s'il y avait quelque chose qu'ils voulaient changer dans leur vie. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'était leur visage. Ça semble contradictoire. Ceux que tout le monde admire comme cela ne sont pas contents d'eux-mêmes. Et cela produit un esprit d'infériorité. Combien à cause de cela sont dépressifs aussi, se font beaucoup de soucis. Quand nous savons que nous avons du prix aux yeux de Dieu, alors tout cela disparaît. Alléluia. Moins beau. Et puis l'autre, il est moins doué, moins intelligent. Alors parce qu'il est moins intelligent, ça y est, l'esprit d'infériorité est là. Et nous sommes littéralement tourmentés. Les autres sont intelligents, mais moi, oui, pas fait d'études. À qui vous parlez, là? Il n'y a rien qui rentre dans ma tête, moi. Je suis une personne stupide. Et nous le disons, et nous le disons, et nous le disons. Et tout cela produit en nous une infériorité terrible. Moins doué. Et il y a aussi un troisième sentiment, moins aimé que les autres. Quand on se sent moins aimé qu'un autre, et spécialement dans une famille, n'est-ce pas vrai? Quand le papa ou la maman aime plus l'un que l'autre, c'est une tragédie. Le plus grand mal qu'un père ou qu'une mère puisse faire dans le foyer, c'est d'aimer plus un enfant que l'autre. C'est une tragédie. Vous êtes littéralement en train d'empoisonner votre enfant. Tous les enfants également doivent se sentir aimés du même amour. Alléluia. Dans une famille, certains enfants se sentaient bien aimés de leur père et ils avaient ce sentiment qu'ils étaient aimés plus que les autres. Et un jour, les enfants ont fait une enquête entre eux et ils ont vu savoir si vraiment lui était plus aimé que l'autre. Alors, ils se sont renseignés. Il a dit, tu sais que moi, je crois que le papa, il m'aime plus que vous, quoi. Ah, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, moi, c'est le même sentiment que j'ai eu. Moi, j'ai aussi ce sentiment que le papa m'aimait plus que toi. Et puis, ils ont fait tout le tour. Chacun des enfants avait le sentiment qu'ils étaient plus aimés que l'autre. Le père avait réussi à mettre dans le cœur de l'enfant qu'il avait du prix à ses yeux et qu'il était aimé par-dessus tout. Amen. Ceci est extraordinaire. Dites à vos enfants, oh, je vous aime tous également. Tous également. Combien de fois je le dis à mes enfants, le Seigneur Jésus m'a dit de vous aimer tous la même chose. Alors quand il y en a une qui vient rouspéter, oui, mais moi, toi, tu as donné ça à Priscilla et puis moi, j'ai rien du tout. Chut, tais-toi. Le Seigneur, il veut que je vous aime tous la même chose. Et ne viens pas faire d'histoire. Je t'aime la même chose. Il n'y a pas de distinction. Alors tout le monde se tait et puis ça reprend comme d'avant. Amen. Alors là, l'esprit d'infériorité disparaît. Et maintenant, voyons une troisième cause de la dépression dans beaucoup de vies. C'est la maladie. Savez-vous que la maladie aussi peut produire la dépression? Et même certains médicaments. Beaucoup de personnes sont dépressives uniquement à cause des médicaments qu'ils prennent. Ces médicaments peuvent guérir ou soulager dans un domaine, mais l'effet est tellement puissant que dans un autre domaine, il produit un effet dépressif. Et nous avons vu aussi des personnes guéries, aussi libérées de leur dépression. C'est extraordinaire. La maladie peut produire cela. C'est pourquoi, quand on vient nous dire que la maladie vient de Dieu, eh bien, je crois que c'est une drôle d'invention, celle-là. Ou en tout cas, une drôle de révélation. Et maintenant, une quatrième cause de la dépression, je ne m'arrête pas trop parce que je voudrais plutôt appuyer sur le positif, n'est-ce pas? Mais une quatrième cause, c'est ce sentiment de rejection. Ce sentiment d'être rejeté. Et savez-vous d'où vient très souvent ce sentiment de rejection dans la vie de quelqu'un?
c'est que bien souvent, cette personne, lorsqu'elle était enfant, n'a pas été désirée par ses parents. Et le papa et la maman, même sans s'en rendre compte, disaient parfois, « Oui, tu vois, tu es venu au monde, mais en fait, on ne voulait pas de toi. Enfin, tu es là maintenant, bon, on est obligé de t'accepter. » Mais ils ont fait savoir à l'enfant qu'il n'était pas désiré. Et cet enfant a été constamment critiqué par ses parents ou par ses amis. Là aussi, c'est quelque chose de tragique qui produit dans la vie de l'enfant et de la personne un sentiment de rejection. Si les enfants ont besoin de quelque chose, c'est d'être encouragés, n'est-ce pas vrai? Oh, que les parents bannissent toute critique de leur bouche. Un de ces soirs, je vais prêcher un autre message sur comment éduquer harmonieusement ses enfants. Alléluia. Je crois qu'il y en a bien besoin aussi, n'est-ce pas vrai? Comment les éduquer harmonieusement? Nous allons le voir. Mais un sentiment de rejection vient sur l'enfant à cause des critiques constantes de ses parents. Tu es un pauvre type, tu es un vaurien, tu t'en sortiras pas. Combien de personnes, de jeunes, ont gardé ça toute leur vie? Tu es un paresseux, tu ne feras jamais rien, toi, dans la vie. Et sans vous en rendre compte, ces paroles sont pour un enfant des paroles de rejection. Et toute sa vie, si le Seigneur n'intervient pas, toute sa vie, il se sentira rejeté. Il y a aussi un autre sentiment de rejection qui vient, vous ne savez pas à cause de quoi? À cause des échecs. Quelqu'un qui a constamment des échecs se sent finalement rejeté, n'est-ce pas vrai? Là aussi, c'est quelque chose de terrible. On essaye, mais on ne réussit pas. Un sentiment de faiblesse, un sentiment d'échec. Rien ne réussit. Et finalement, on nourrit tout cela. Et la dépression commence à se manifester. Et maintenant, une cinquième cause de dépression, nous la trouvons dans les comparaisons que nous faisons avec les autres. Lorsque nous nous comparons aux autres. Oh, l'autre, il a tel don et moi je n'ai rien du tout. L'autre a telle qualité, je n'ai rien du tout. Et ces paroles, ces sentiments, ces comparaisons mettent en nous un esprit dépressif, n'est-ce pas vrai? L'autre, il a du succès, moi je n'ai rien du tout. L'autre, il est béni, moi je ne suis pas béni. Et tout cela produit un sentiment profond de dépression. Une sixième cause maintenant, c'est la pitié de soi. Là, celui-ci, c'est un gros morceau. La pitié de soi. La pitié de soi conjugue toujours à la première personne du singulier. Je. Chaque fois que la personne parle, c'est toujours pour parler de ses bobos, de ses bobos, de ses bobos. Elle tourne constamment autour d'elle-même. Constamment, et il faut constamment la plaindre. Il faut constamment être là, « Oh oui, c'est vrai, vraiment, vraiment. Oh, vous avez vraiment des souffrances. Oui, vraiment, ça ne va pas, je vois. Oui, vous avez été déçu, vraiment. Oui, et la pitié de soi se nourrit de ça. Oui, ah oui, c'est vrai. Oh, si vous saviez. Et puis encore aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Ah oui, oui, oui. Ah ben, il est arrivé encore ça. Ah oui, 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 oui. Oh oui. Oh, si vous saviez. Je m'en sors plus. Et constamment la pitié de soi. C'est une personne qui est littéralement rivée sur elle-même. Elle ne vit que pour elle-même. Et une personne qui vit pour elle-même sera toujours une personne dépressive. La pitié de soi, si vous l'entretenez, mes chers amis, vous détruira. Vous devez cesser de ne parler que de vous-même. Vous devez cesser d'accepter que les autres vous plaignent constamment. Et vous cajole constamment. Vous devez cesser cela. Et une septième cause, c'est ceci, c'est ne pas avoir un but précis dans sa vie. Ça aussi, c'est une source de dépression. Quand on ne sait pas ce qu'on va faire, combien de personnes disent, à quoi ça sert la vie? On n'a rien à faire. Un jour, un pasteur a dit à une femme qui était constamment dépressive, «
Mais dis-moi, sors un petit peu de ta maison. Bah, commence un peu à témoigner. Parle un peu du Seigneur autour de toi. Fais quelque chose.
Et au bout de certain temps, le pasteur est venu à demander, comment va votre dépression? Elle a dit, j'ai plus le temps d'y penser maintenant. J'ai plus le temps d'y penser. Il y a 2-3 personnes qui se sont converties. Alors je m'occupe d'elles. Alors j'ai plus le temps d'y penser.
Quand nous n'avons pas de but à notre vie, alors nous tournons en rond. Nous ruminons constamment nos problèmes et nous tombons dans la dépression.
Voilà donc 7 causes, le désappointement, l'esprit d'infériorité, la maladie, la rejection, les comparaisons avec les autres, la pitié de soi et ne pas avoir de but dans sa vie. Ce sont 7 causes de dépression. Mais nous allons voir maintenant les 7 pas qui nous délivrent de la dépression. Alléluia. 7 pas que vous devez faire.
Bien souvent, les dépressifs se laissent aller. Ils voudraient bien qu'on prie pour eux, mais ils ne font rien eux-mêmes. Ils voudraient que ce soit toujours les autres qui fassent quelque chose. Si vous voulez être délivré de la dépression, vous avez votre part à faire. Le croyez-vous? Vous avez votre part à faire. Il faut absolument collaborer.
Alors, quel est le premier pas? Premièrement, le premier pas est celui-ci. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Ça, c'est le premier pas. Jean chapitre 15, verset 5 nous dit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, sans Jésus, il ne faut pas être s'étonner de la dépression, puisque nous n'avons rien en nous qui puisse combattre, résister à l'esprit de ce monde, à l'esprit de l'ennemi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 3, 16, un verset formidable qui nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux sortir de ta dépression, il faut accepter Jésus dans ta vie. Dans ta vie. Il y a quelques mois, lorsque j'étais à Neuchâtel, à la fin d'une mission, presque la dernière personne, c'était, je crois, la dernière personne pour laquelle j'ai prié. Un monsieur, je crois qu'il était allemand un petit peu, il ne savait pas très bien le français. Il s'est approché avec sa femme et il a essayé tant bien que mal, je crois, de me parler un peu en... Je ne sais pas si c'était en allemand ou en quoi c'était, ou en français, ou en anglais. Enfin, ah oui, tu n'étais pas là, je crois. Alors, finalement, j'ai su qu'il était dépressif. Sa tête était comme dans un étau. Et je voyais bien, d'ailleurs, sur son visage, ça se voyait nettement. Alors quand je l'ai vu comme cela, et qu'on n'arrivait pas à s'entendre, ben, j'ai dit finalement, il y a quelque chose à faire, c'est de prier, quoi. Et si on ne va pas rester longtemps comme ça. C'était déjà minuit, j'avais prié pour les malades pendant longtemps. Bon, alors j'ai mis ma main sur lui, et je lui ai expliqué aussi qu'il fallait qu'il donne son cœur au Seigneur, bien sûr. Et alors après, je lui ai dit, j'ai prié, et au nom de Jésus, j'ai chassé l'esprit de dépression.
Il est resté un petit moment comme ça. Il dit, mais c'est formidable, il y a un poids qui est parti de ma tête, mais c'est formidable, mais il est littéralement comme ça. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais il dit, mais c'est la première fois, mais pensez bien, c'est la première fois depuis des mois que je sens cette liberté, je n'avais jamais cela.
Mais je lui dis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais donne ton cœur au Seigneur, je lui ai bien dit cela. Alors c'était la fin de la réunion, il est parti tout content. J'ai dit, reviens écouter la parole de Dieu. Ne reste pas comme ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester comme ça. Alors il est parti. Quand je suis retourné à Neuchâtel pour une autre mission, dans un foyer où nous avons mangé, j'ai justement demandé des nouvelles de ce monsieur. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Ah, il me dit, tu sais ce qui s'est passé? Pendant les 10 jours qui ont suivi, c'était formidable. Mais cet homme n'a pas voulu donner son cœur au Seigneur. Il n'a pas voulu accepter Jésus dans son cœur. Et il est retourné reprendre ses traitements. Comme Jésus n'était pas en lui, alors naturellement, il n'avait plus de force pour résister. Et lorsqu'il a recommencé à prendre les médicaments, le mal est redevenu comme avant. Et il paraît que maintenant, c'est pire qu'avant. Il s'en sort pas.
Ceci pour dire que non seulement Jésus délivre de la dépression, mais il est le seul pour vous garder ensuite, n'est-ce pas vrai? C'est même dangereux de prier pour quelqu'un qui veut être délivré de la dépression sans qu'elle accepte Jésus dans son cœur. Cette personne risque d'être pire après. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre sauveur et comme votre Seigneur, pas seulement comme celui qui pardonne vos péchés, mais à celui à qui vous livrez votre vie. Savez-vous que beaucoup de chrétiens sont dépressifs? Pourquoi? Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais ils l'ont renié comme leur Seigneur. Oui, ils disent bien « Jésus est mort pour moi, Jésus est mon sauveur, il a pardonné mes péchés », mais ces personnes n'ont jamais accepté Jésus comme leur Seigneur. Ils ne lui ont jamais dit « Seigneur, me voici, maintenant que tu m'as sauvé, je te donne les rênes de ma vie ». Et quand on dit « Jésus est mon Seigneur », cela veut dire « Je ne veux plus faire ce que je veux, mais je veux faire ce que tu veux ». Et parce que beaucoup de chrétiens, même étant sauvés, font ce qu'ils veulent au lieu de faire ce que Jésus veut, la dépression les atteint. Je le répète, celui qui veut vivre pour lui-même ouvre la porte à la dépression. Vous devez l'accepter comme votre sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Dire à partir de maintenant, Seigneur, ce que tu veux et non ce que je veux. Alléluia. Je veux aller là où tu veux et non là où je veux. Je veux dire ce que tu veux et non ce que je veux. J'abandonne ma vie entre tes mains. Si vous ne faites pas cela, la dépression vous guette. Car vous allez essayer de faire face à la vie avec vos propres forces. Ça, c'est le premier pas, accepter Jésus-Christ. Le deuxième pas que vous devez faire est celui-ci. Vous devez confesser que Jésus vous aime personnellement. Je répète, vous devez confesser que Jésus vous aime personnellement. Alléluia! J'ai trois beaux versets pour vous ici. 1 Jean chapitre 3, verset 1, vous le connaissez tous. Je vous l'ai dit l'autre jour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia! Vois quel amour le Père t'a témoigné pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont dépressifs, parce qu'ils ne se sentent plus aimés. Ils pensent que Dieu ne les aime pas. Oh, chers amis, c'est le plus grand mensonge que vous puissiez accepter. Un jour, lorsque j'étais dans le nord de la France, dans une famille, une très gentille famille, la sœur qui était dans ce foyer, à un moment donné, a dit quelque chose qui m'a complètement épouvanté. Et pourtant, des gens très spirituels. Elle a dit, je sais que Jésus m'a sauvé et tout, mais je n'ai jamais réalisé vraiment que Jésus m'aime. Je dis, comment vous osez dire ça? Vous, une chrétienne comme ça depuis des années, vous n'avez pas le sentiment que Jésus vous aime? Et naturellement, son mari souffrait de cela, que puisqu'elle n'avait pas ce sentiment d'être aimée de Jésus, parce qu'elle n'avait pas été aimée durant son enfance, pendant votre enfance, alors laissez-vous aimer du Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Romains 5, 8, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a prouvé son amour. Lorsque tu étais pécheur, lorsque tu étais rebelle, il t'a aimé et il t'aime et il t'aime. Veux-tu dire ce soir, Jésus m'aime? Dites-le maintenant. Jésus m'aime tel que je suis. Jésus m'aime tel que je suis. J'ai du prix à ses yeux. Dites-le encore, j'ai du prix à ses yeux. Je suis le chouchou du Seigneur. Alléluia! Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Éphésiens 2, 4 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Elle ne vous pouvait pas aussi aimer son mari comme il le fallait. Elle en souffrait et il en souffrait. Chers amis, ceci peut produire des tragédies. Et ça m'a complètement surpris une telle déclaration. Vous devez confesser que Jésus vous aime. Même si vous n'avez pas eu votre dose d'amour pendant votre enfance, alors laissez-vous aimer du Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Romains 5, 8. Car Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a prouvé son amour. Lorsque tu étais pécheur, lorsque tu étais rebelle, il t'a aimé et il t'aime et il t'aime. Veux-tu dire ce soir, Jésus m'aime? Dites-le maintenant. Jésus m'aime tel que je suis. Jésus m'aime tel que je suis. J'ai du prix à ses yeux. Dites-le encore. J'ai du prix à ses yeux. Je suis le chouchou du Seigneur. Alléluia! Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Éphésiens 2, 4 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait grâce de nos offenses. » Le grand amour de Dieu, tu es aimé d'un grand amour, le crois-tu? Laisse-toi aimer ce soir et refuse les mensonges de l'ennemi. Dis-le souvent, Jésus m'aime, Jésus tu m'aimes. Et cette déclaration va appeler l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à cause de ta confession, va te donner d'expérimenter cet amour. Alléluia! Mais tant que tu ne le confesses pas, et qu'au contraire tu confesses des mensonges de l'ennemi, en disant que Dieu ne t'aime pas, que Jésus ne t'aime pas, que personne ne t'aime, le Saint-Esprit ne viendra jamais confirmer de telles paroles. Vous êtes d'accord? C'est plutôt le contraire. Le Saint-Esprit sera attristé de telles déclarations. Parce qu'elles ne correspondent pas à la vérité. Le plus grand affront qu'un chrétien tout particulièrement, et bien sûr un païen, mais qu'un chrétien puisse faire au Seigneur, c'est de lui dire « Tu ne m'aimes pas ». C'est le plus grand affront que vous puissiez faire. Si votre enfant venait devant vous ce soir et vous dise « Papa ou maman, tu ne m'aimes pas ». Quel effet cela produirait en vous? Quel effet cela produirait en nous? Cela pénétrerait comme une flèche. Et c'est peut-être une parole qui vous poursuivra pendant des mois et des années. Tu ne m'aimes pas, papa. Tu ne m'aimes pas, maman. Quelle parole terrible! Et cependant, c'est la même chose que nous faisons à l'égard de notre Père. Mais il t'aime, confesse-le. Confesse-le, même si tu ne le ressens pas, confesse-le. Alléluia. Dis, Seigneur, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Je suis aimé de toi, je suis aimé de toi. Et c'est la vérité, car Dieu a tant aimé le monde. Que pouvait-il faire de plus? Il t'aime, tu es aimé, il le prouvera. Ne sors jamais des paroles d'incrédulité, ne sors jamais de telles paroles. Alléluia. Confesse que Jésus t'aime. C'est extraordinaire cela. Car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Vous êtes tous aimés du Seigneur ce soir. Amen. Et sachez une chose. Moi je vous aime aussi. Alléluia. Il me vient à l'esprit maintenant une certaine dame qui avait perdu son mari. Et ensuite, au décès de son mari, tout espoir avait fui de son cœur. Tout amour aussi avait complètement fui. Il n'y avait plus rien en elle. Elle était sèche, littéralement. Et elle ne ressentait plus rien non plus. Et surtout, elle ne ressentait pas que Dieu l'aimait. Et c'était la femme d'un grand évangéliste qui s'adressait à elle. Elle avait essayé plusieurs fois de lui montrer que Jésus l'aimait, mais elle n'avait pas réussi. Toutes les paroles d'amour qu'elle disait n'avaient pas d'effet. Elle pensait que Dieu ne l'aimait plus, ou en tout cas, ses paroles ne produisaient pas d'effet en elle. Et vous savez, le Seigneur a mis une pensée merveilleuse dans le cœur de la femme de cet évangéliste. Et le Seigneur lui a dit, écoute, tu vois bien, elle ne ressent rien du tout. Tu parles que Dieu l'aime, mais elle ne le ressent pas. Tu vas faire une chose. Tu vas lui dire, toi, que tu l'aimes. Que Jésus t'aime, mais que toi aussi tu l'aimes. Alors, elle a obéi au Seigneur, elle a mis ses mains sur cette maman, seule, et elle a dit, Dieu t'aime, mais sache aussi une chose, moi aussi je t'aime. Alors, elle a jeté ses bras sur elle, et c'est au moment où elle s'est jetée sur elle, cette femme s'est effondrée. C'est cette manifestation d'amour de la part du Seigneur l'a complètement brisée. Autrement dit, Jésus a manifesté son amour à cette femme au travers de son enfant. Savez-vous que Dieu n'a que vos bras pour entourer les autres? Alléluia! Savez-vous que Dieu n'a que votre bouche pour dire que vous les aimez? Savez-vous que Dieu n'a que votre cœur pour dire « Mon cœur bat avec le tien, alléluia !» Savez-vous que Dieu n'a que vos yeux pour pleurer avec ceux qui pleurent? Savez-vous cela? Savez-vous? Dire seulement que Dieu vous aime, cela ne suffit pas. Vous devez vous maintenant le dire et le manifester. Alléluia! Et depuis ce jour-là, elle a senti que Dieu l'aimait. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une démonstration de l'amour de Dieu. L'amour est toujours un acte, ne l'oubliez jamais. Comme la foi est un acte, est une confession. L'amour doit se manifester par des paroles ou par des gestes. Et si vous le faites, alors Dieu se rendra réel aux autres. Alléluia! Vous devez croire, confesser que Jésus vous aime. Alléluia! Oh là là! Ben dis donc, moi qui ce soir voulais finir plus vite parce que je vous avais gardé trop tard les autres soirs, qu'est-ce qu'on fait? Troisièmement, enfin... Vous me tirerez les oreilles, ça fait rien après. Je vous aimerai encore. Alléluia! Gloire au Seigneur. Troisièmement, le troisième pas qui vous conduit à la délivrance et qui vous sort de la dépression, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et aussi, vous pardonnez vous-même. Avez-vous bien entendu? Vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé et aussi vous pardonnez vous-même. Jésus a dit... Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Matthieu 6, 14, 15, votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Jésus, votre Père, ne vous pardonnera pas vos offenses. Vous savez, certaines personnes pensent que quand elles ne pardonnent pas, que c'est rien. C'est... Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes en train de jouer avec votre propre salut. Vous jouez avec votre salut. Car si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, il est dit, Jésus a dit, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Dites-moi, si votre Père Céleste ne vous pardonne pas, qu'est-ce que vous êtes? Si vous n'êtes pas pardonné, vous êtes perdu. Vous jouez avec votre propre salut. Vous devez pardonner. Une des sources de la dépression, c'est le ressentiment, c'est le non-pardon. Le non-pardon. Pour un tout, pour un rien peut-être, que vous n'avez pas pardonné. Mais c'est cela qui produit la dépression et qui vous détruit. Le non-pardon détruit quelqu'un. Non seulement vous devez pardonner aux autres, mais vous devez vous pardonner vous-même. Ceci aussi est très important. Beaucoup, à cause de leur orgueil, ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils se disent comment? Toi, t'as fait une faute comme ça? Non, ce n'est pas digne de toi. Et on a de la peine à se pardonner. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Pardonnez-vous vous-même ce soir. Le sentiment de culpabilité aussi détruit beaucoup de personnes. Uniquement parce qu'ils ne se pardonnent pas. Pardonnez-vous. Si Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Pardonnez-vous. Soyez assez humble pour vous pardonner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et une quatrième chose maintenant, un quatrième pas. Vous pourrez vous-même méditer ces points, ils sont très importants. Et si nous ne les pratiquons pas, ils sont des causes, des sources de dépression. Quatrièmement, vous devez changer votre façon de penser et de parler. Je répète, vous devez changer votre façon de penser et de parler. Les dépressifs ont constamment des pensées négatives. Ils ne veillent pas dans le domaine de leurs pensées, n'est-ce pas vrai? Et ils disent n'importe quoi. Constamment, ils sont dans un bain constamment négatif. Constamment négatif. Un jour, un serviteur de Dieu a dit que beaucoup de chrétiens ont un cœur nouveau, mais une vieille tête. Une vieille tête, pourquoi? Parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous montrent que nous devons changer notre façon de penser. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est vous qui devez transformer vos pensées. Vous devez renouveler votre façon de penser. Combien d'entre nous, nous pensons comme encore avant notre conversion? Les mêmes pensées. Et les paroles, la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Alors ne vous étonnez pas si la porte de la dépression s'ouvre devant vous. Vous devez changer votre façon de penser et votre façon de parler. C'est pourquoi vous devez constamment méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être votre nourriture. La méditation constante dans vos pensées et dans votre bouche, les paroles de Dieu. Ne sortez aucune parole négative. Soyez positif. Ayez le langage d'un vainqueur. Alléluia. Si vous dites que vous êtes dépressif, que vous n'en sortirez jamais, vous n'en sortirez jamais. Il est fait selon votre foi. Vous n'en sortirez jamais. Changez votre langage. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit ceci au sujet du langage. Voilà ce que vous devez faire. Si nous prenons soin, alors quelque chose va se passer. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Avez-vous bien entendu? Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu. Avez-vous remarqué ici? Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche. Mais vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est possible ça? Ah bon, alors si c'est pas possible, il faut rayer ce passage de votre Bible. S'il vous plaît. Vous qui dites souvent que vous êtes honnête, vous êtes droit, hein, tout, vous êtes tout ça devant Dieu. Allez, rayez tout de suite. Oui, vous êtes droit, allez-y, et puis allez-y droitement, puisque vous êtes droit. Mais c'est pas possible, ah c'est pas possible, alors la Bible s'est trompée. Excusez-moi, la Bible s'est trompée. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, nous devons veiller à cela, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Et vous qui êtes dépressif, changez votre langage. Vous qui dites, je n'en sortirai jamais, dites à partir de ce soir, avec l'aide du Seigneur, j'en sortirai. Cessez d'accuser l'un, cessez de condamner l'autre. Changez votre façon de langage. Remplissez votre bouche, vos pensées, votre être entier de la parole de Dieu. Et vous ne serez plus la même personne, ce n'est pas possible. Mais si vous ruminez constamment dans le négatif, constamment dans le ressentiment, constamment dans les choses mauvaises, vous n'en sortirez jamais. Vous devez changer votre façon de penser et de parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cinquièmement, vous devez apprendre à vous réjouir et à louer le Seigneur en toutes circonstances. Savez-vous qu'un dépressif est triste, c'est pas vrai? La mélancolie, vous savez ce qui est terrible, c'est qu'avec la mélancolie, la tristesse, c'est contagieux. Si vous allez autour de ces personnes sans qu'il y ait la joie du Seigneur en vous, mais c'est l'autre qui vous contamine. Et vous sortez de cette maison, oh là là, ça va pas bien aujourd'hui. Vous êtes rentré, vous étiez joyeuse, vous en sortez, vous êtes triste. Vous avez été contaminé par l'autre. Quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui ne se réjouit pas. En toutes circonstances, vous devez vous réjouir et louer le Seigneur en toutes circonstances. Une personne qui loue le Seigneur en tout temps ne sera jamais dépressive. Soulignez bien cela. C'est qu'à un moment donné, si vous êtes dépressif, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas obéi au Seigneur, vous n'avez pas rendu grâce en toute chose, vous ne l'avez pas loué, vous ne l'avez pas béni, vous n'avez pas maintenu en vous cet esprit de joie. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, 19, 20 nous dit aussi, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu à toutes choses pour au Seigneur. Comment ? J'ai les choses ici. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il faut quand même dire alléluia, même quand vous trompez, ça fait rien. Il y en a qui rougiraient et puis s'en iraient, ça serait fini. Alléluia. Mais depuis longtemps, on a mis ça de côté. Une bonne humiliation devant tout le monde, ça fait du bien parfois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pourquoi vous devez le louer en tout temps? Pourquoi? Romains 8, 28. Car nous savons que, du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourront ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui vient ne vient pas forcément de Dieu, mais ensemble, tous ensemble, dans le plan de Dieu, tout concourt à ton bien. Alléluia. Si tu as compris cela, alors relève la tête. Relève la tête, ne rumine pas. Dieu a un plan merveilleux. Tout va concourir à ton bien. Et quand tu te retourneras, dans quelques mois ou quelques années, tu pourras dire, c'était exactement ce qu'il me fallait. C'était exactement le chemin par lequel je devais passer. Toute chose a concouru à ton bien, à ton bien. Alléluia. Et c'est Jésus qui le dit, c'est Jésus qui le dit. C'est sa parole, c'est tout pour ton bien. Quand tu as compris cela, alors tu le loues. Non seulement quand tout va bien, mais quand tout va mal. Je n'ai jamais vu une personne dépressive qui sait louer le Seigneur en toutes circonstances. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Loue le Seigneur. Sois joyeux. Loue. Exalte-le de tout ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et maintenant, une sixième étape. Vous devez apprendre à rechercher d'abord le royaume de Dieu. Et à donner avant de recevoir. Avez-vous bien compris? Vous devez apprendre à rechercher le royaume de Dieu et à donner avant de recevoir. Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pourquoi certaines personnes sont dépressives? Parce qu'elles se cassent constamment la tête pour les choses d'ici-bas, n'est-ce pas vrai? Pour les soucis de ce monde. Oh, est-ce qu'on aura assez à manger? Est-ce qu'on aura assez à boire? Est-ce qu'on aura le vêtement? Combien de personnes sont dans la dépression à cause de cela? Relève la tête. Cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Vis pour le Seigneur. Sois entièrement consacré à Jésus. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Pourquoi les personnes sont dépressives? Parce qu'elles pensent s'en sortir elles-mêmes. Elles disent, oh là là, mon chèque n'est pas très bien épais cette fois. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je n'ai pas beaucoup d'allocations. Je n'ai pas beaucoup d'assurance. Je ne m'en sortirai pas. Et comment je vais faire? Mais ce n'est pas possible. Et beaucoup finissent par la dépression. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Et la dépression s'envolera. Que le nom du Seigneur soit béni. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ensuite, vous devez donc apprendre à rechercher d'abord le royaume de Dieu et à donner avant de recevoir. Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Pourquoi est-ce qu'une personne est dépressive? Écoutez-moi bien. Uniquement parce qu'elle cherche constamment à recevoir. Donnez-moi de la joie, donnez-moi votre amitié, donnez-moi de l'argent, donnez-moi un sourire, donnez-moi quelque chose. Cette personne ne vit que pour recevoir. Et comme elle ne reçoit pas toujours, elle est déçue. Elle est très sensible, elle tombe dans la dépression. Pourquoi es-tu dans la dépression? Parce que tu ne vis que pour recevoir. Veux-tu sortir de la dépression? Cesse de vivre pour recevoir. Commence maintenant à donner. Donnez et il vous sera donné. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia! Sors de ta dépression, commence à donner maintenant. Va, aime, pardonne, n'attends rien des autres. Donne, donne, pardonne, et Dieu sera à ton secours. Alléluia, ne tourne plus autour de toi-même. Ne permets pas aux autres de tourner autour de toi pour qu'on vienne te plaindre. Dites, ça suffit maintenant. Je ne veux que plus personne pense à moi ici, c'est comme... À partir de maintenant, je ne vis plus pour recevoir, je vis pour donner. Alors, vous regardez autour de vous? Vous voyez que quelqu'un fait un petit peu la tête? Ah, là-bas, il y a quelque chose à donner. Ah, tu fais un petit peu la tête. Viens, je vais y aller, moi. Et vous y allez. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Alléluia! Et sache une chose, c'est que je t'aime, que le Seigneur te bénisse. Et puis vous allez là-bas, vous voyez une personne qui manque un peu d'amour, et vous allez l'aimer, et vous allez l'aimer. Et vous verrez qu'en donnant, vous recevrez. Alléluia! Alléluia! Vous verrez que vous ne serez plus la même personne. Un dépressif, c'est quelqu'un qui tourne autour de lui-même, qui ne vit que pour lui-même, que pour recevoir. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais la libération vient lorsqu'on cesse de recevoir, on donne, on donne, on donne. On ne vit plus pour soi, on donne. Quelle libération! Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Matthieu 10, 39. Mais celui qui la perdra, la retrouvera et la sauvera. N'est-ce pas merveilleux? Perdez votre vie et vous la retrouverez, alléluia. Mais si vous voulez la gagner, vous la perdrez. Vous gâcherez votre vie, vous vous détruisez vous-même et vous détruisez les autres sans vous en rendre compte. Perdez votre vie ce soir. Dites maintenant, je ne veux plus vivre pour moi. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et un septième pas qui va vous sortir de la dépression, c'est celui-ci. Vous devez décider de ne plus vous laisser dominer par vos sentiments, mais de marcher par la foi. Vous auriez pu dire alléluia, là. Même si vous êtes un peu fatigué, alléluia quand même. Bon, avez-vous bien entendu? Vous devez décider de ne plus vous laisser dominer par vos sentiments, mais de marcher par la foi. Même si vous n'avez pas envie de prier, priez. Même si vous n'avez pas envie de louer, louez. Une personne dépressive, c'est une personne qui vit de sentiments. C'est pourquoi un jour c'est formidable et le lendemain ça ne va plus du tout. Un jour, cette personne est au ciel, le lendemain, on a l'impression qu'elle est en enfer. Vous ne la reconnaissez pas. Vous ne savez jamais dans quel état vous allez trouver cette personne. J'ai dit, mais oui, on y retourne là-bas, mais alors, je ne sais pas, hier c'est formidable, mais alors aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors, prépare-toi bien. Mais pourquoi cela? Parce qu'on vit le sentiment, les sentiments nous ont dominés. Et une personne dépressive, c'est quelqu'un qui nourrit ses sentiments et qui est influencé par ses sentiments. Nous devons en sortir. Cesse maintenant de vivre de sentiments. Une personne dépressive, c'est cela. Oh, je sens rien aujourd'hui. Oh, je sens que ça va pas. Hein, faites comme le conseil que je vous ai donné l'autre jour, là. Ce fameux serviteur de Dieu qui avait un ministère de miracles. Un autre pasteur lui a dit, alors, pourquoi est-ce que tu es toujours joyeux comme cela? Pourquoi est-ce que ça va toujours bien avec toi? Alors, vous savez ce qu'il a dit, le prédicateur? Le matin, quand je me lève, il dit, je ne me demande jamais comment je vais. Il se demandait jamais comment il allait. Il se levait et louait le Seigneur. Alléluia. Ne vous demandez plus comment vous allez, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Envie ou pas envie, priez. Envie ou pas envie, lisez votre Bible. Envie ou pas envie, louez le Seigneur. Si vous êtes venu ce soir, oh là là, ce soir j'ai pas envie de le louer, et vous n'allez pas réussir à me faire louer le Seigneur. Ceci prouve une chose, c'est que les sentiments dominent sur vous. Vous êtes finalement un chrétien charnel, mais dominez vos sentiments par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas par la foi, par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, 6. Nous marchons par la foi et non par la vue. Autrement dit, nous ne marchons pas par les sentiments, par les circonstances. Nous ne nous laissons plus dominer par cela. Que c'est beau, n'est-ce pas, quand on trouve quelqu'un qui est toujours debout, quand toutes les circonstances sont contraires. Cette personne ne marche pas par la vue, ou par les sens, ou par les sentiments, mais par la foi. Dieu l'a dit, il est avec moi, je le bénis, je l'exalte, que son nom soit loué. Alléluia. Voilà ce que l'Église attend comme chrétien, voilà ce que Jésus attend comme chrétien. Et pour terminer, un dernier verset extraordinaire, Romains 8, 37, 39, qui va complètement vous libérer de vos sentiments, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, voyez-vous, il y a beaucoup de circonstances contraires autour de lui, mais il a l'assurance que ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Il pouvait dire un petit peu avant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On ne pouvait pas ébranler l'apôtre Paul. Alléluia. Il était dans une campagne d'évangélisation, il louait le Seigneur. Il était dans les champs, il louait le Seigneur. Il était dans un naufrage, il louait le Seigneur. Il était dans une prison, il louait le Seigneur. Rien, on ne pouvait pas l'influencer. Il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Rien, rien, rien ne pouvait l'influencer. Il ne vivait pas de sentiments. Il vivait d'une foi ancrée sur la parole de Dieu. Alléluia. Il ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Alors, si demain vous venez et que vous n'avez pas envie de louer le Seigneur, louez-le. Dites-vous un petit peu, allez, réveille-toi maintenant. Hein. T'as pas envie? Eh bien, tu dois justement faire ce que vous n'avez pas envie. Amen. Amen. Dites pas alléluia, là. Vous devez justement faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ça, c'est un bon conseil. Comment? Moi, je crois que je devais faire tout ce que j'ai envie de faire. Non, non, non. Tu dois justement faire ce que tu n'as pas envie de faire. Par cela, tu montreras que tu es un homme, une femme spirituelle, qui ne marche pas par la vue, mais par la foi. Ne te laisse plus diriger par tes sentiments. Une personne dépressive, c'est cela. Elle est constamment en train de se tâter.
Oh, ça va pas du tout. Oh,
ce matin, je me suis levé. Non, la journée est gâchée, il y a un peu de nuages, ça va pas du tout. Et puis, il y a l'autre qui vient juste d'arriver ce matin, là. Et à peine rentré, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que...
Comment?
Alors, non, ma journée est gâchée, ça ne va pas du tout. Voilà comment certaines personnes se lèvent le matin. Levez-vous le matin et dites, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Alléluia, louons le Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Chaque matin, levez-vous ainsi. L'Éternel a fait cette journée. Réjouissons-nous en elle. Vous verrez la dépression qui va se changer en compression. Changez vos dépressions en compression. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia, levons-nous tous maintenant. Alléluia. Alléluia, nous allons louer le Seigneur. Comment tu n'as pas envie? Alors tu vas justement le faire. Alléluia, levons nos mains vers le ciel. Louons le Seigneur et du fond du cœur. Ne nous laissons plus dominer, influencer par nos sentiments, envie ou pas envie. Je loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Ce soir, tu dois chanter encore une fois. Louons le Seigneur, le Seigneur, élevons nos voix vers le ciel, louons Dieu, louons le quelque chose de plus. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez au moins saluer deux personnes et vous allez lui dire « Je t'aime au nom de Jésus ».